Ce balado vous est présenté par interbible.org, le portail biblique francophone. Bienvenue à cette émission des récits insolites de la Bible. Ici Sébastien Daune, bibliste. Content d'être avec vous pour un autre épisode d'une série où je vous propose de redécouvrir la Bible à partir de ses récits insolites. Dans les dernières émissions, on a surtout exploré des récits qui provenaient du premier livre de la Bible, le livre de la Genèse. Ces récits nous avaient surpris, entre autres, par leur contenu assez sexuel et explicite. Aujourd'hui, on va plonger dans un autre livre de la Bible, celui des Nombres. On le connaît un peu moins. En fait, il y a beaucoup d'histoires qui se retrouvent dans le livre des Nombres, qui sont aussi dans le livre de l'Exode, qu'on connaît un peu. On va trouver Moïse, un personnage important, qui a souvent été présenté comme un leader fort, imperturbable. Pourtant, là, on va le voir dans un moment de désespoir. Le grand Moïse va aller jusqu'à penser au suicide. Nous verrons que Dieu va intervenir d'une façon à la fois pédagogique, mais aussi assez spéciale. Il y a un peu d'humour noir là-dedans. Mais le côté pédagogique pourra nous éclairer et nous donner quelques pistes de réflexion, même pour nous, lorsqu'on traverse des moments difficiles. Bonne émission. Lors de la dernière émission, nous avons répondu à Christian, qui nous avait demandé si la Bible disait vrai, si on pouvait s'y fier. Mais suite à notre réponse, il nous a réécrit. Je le cite, « Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre, car ça commence à être un peu plus clair. Mais j'ose une sous-question. J'ai compris que la Bible dit vrai, même si son exactitude historique n'est pas toujours certaine, mais alors comment comprendre que la Bible est un livre inspiré par Dieu? » Donc, pour répondre à Christian, je suggère qu'on prend un temps pour réfléchir sur l'inspiration de la Bible. La Bible, pour les chrétiens, c'est un livre sacré. Tous les chrétiens croient qu'elle est inspirée par Dieu. Pourtant, ce n'est pas tous qui s'accordent sur la même façon dont il faut l'interpréter et sur comment rendre compte de cette inspiration-là. D'abord, pour certains, la Bible est inhérente. Ça, c'est un mot compliqué qui veut dire qu'elle ne contient pas d'erreur. Elle serait précise, vraie, parce que Dieu aurait guidé son écriture. Cette position-là, c'est celle qu'on retrouve chez les fondamentalistes. Plusieurs récits insolites qu'on aborde dans cette série d'émissions s'accordent mal avec cette façon de lire la Bible sans erreur. Mon interprétation des textes bibliques ne se situe pas tout à fait dans cette ligne de pensée. Pour moi, et comme pour la grande majorité des biblistes et des exégètes d'aujourd'hui, l'inspiration de la Bible passe d'abord et avant tout par les hommes qui ont rédigé les divers livres bibliques. La Bible n'est pas une parole de Dieu qui doit être prise mot à mot. Il s'agit plutôt de textes qui ont été écrits par des humains qui voulaient raconter leur expérience de Dieu. Leur témoignage a été reconnu par certaines communautés de croyants et ils nous ont dit qu'il y avait une valeur dans ce témoignage-là. Ils l'ont mis dans la Bible qui est comme le recueil des textes sacrés. La Bible n'est pas tombée du ciel. Ce n'est pas du tout la même chose que pour le Coran. Chez les musulmans, le Coran a été dicté mot à mot en arabe par l'ange Gabriel à Mohammed. Il en va tout autrement pour la Bible. Voici donc, pour voir comment on voit ça dans la Bible, je vous propose un court texte tiré du Concile Vatican II qui parle justement de l'inspiration de la Bible. C'est tiré de Dei Verbum, c'est le numéro 11. En vue de composer ces livres sacrés, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit en vrais auteurs tout ce qui était conforme à son désir et cela seulement. En d'autres mots, on peut dire que, comme le Concile le dit, la Bible est ancrée dans les contextes historiques, sociaux, religieux, culturels, linguistiques de ses rédacteurs. Ce sont de vrais auteurs. Il faut donc étudier ces contextes-là pour arriver à les interpréter. Dieu passe par des humains pour nous parler. Et comme tout humain, ces auteurs ne possèdent pas toutes les connaissances. Ils sont inspirés par Dieu, oui, mais ils ne font pas que dicter ce qu'il leur dit. Alors, merci donc, Christian, pour cette excellente question. Alors, faites comme lui. Je vous encourage de nous réécrire, de nous écrire, nous appeler aussi pour nous poser vos questions, nous donner vos commentaires sur notre émission. Je vous rappelle, le courriel, c'est auditoire@radiovm.com. Au plaisir de vous lire. On se retrouve au chapitre 11 du livre des Nombres. Je vais vous aider à replonger dans l'histoire. Bon, on se rappelle l'histoire de Moïse. Il est sorti d'Égypte avec tout le peuple. Puis, ils sont dans le désert, reçoivent les 10 commandements. Après ça, la Bible raconte cette traversée du désert du peuple hébreu, sous la conduite de Moïse. Bon, on peut facilement imaginer, ceux qui ont déjà été dans ces coins de pays-là, la difficulté de la vie au désert. C'est vraiment très difficile de survivre. Et dans ce contexte-là, on peut comprendre le peuple qui commence à se plaindre à multiples reprises du manque d'eau et de nourriture. Je vous suggère d'écouter le livre des Nombres, chapitre 11, les versets 4 à 6, suivis de 10 à 15.
Les fils d'Israël eux-mêmes recommencèrent à pleurer. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous rappelons le poisson que nous mangions pour rien en Égypte, les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons, l'ail. Tandis que maintenant notre vie s'étiole, plus rien de tout cela. Nous ne voyons plus que la manne. Moïse entendit le peuple qui pleurait, groupé par clans, chacun à l'entrée de sa tente. Le Seigneur s'enflamma d'une vive colère et Moïse prit mal la chose. Pourquoi suis-je en disgrâce devant toi au point que tu m'imposes le fardeau de tout ce peuple? Est-ce moi qui ai conçu tout ce peuple? Moi qui l'ai mis au monde? Pour que tu me dises, porte-le sur ton cœur comme une nourrice porte un petit enfant, et cela jusqu'au pays que tu as promis à ses pères. Où trouverai-je de la viande pour en donner à tout ce peuple qui me poursuit de ses pleurs et me dit, donne-nous de la viande à manger? Je ne puis plus, à moi seul, porter tout ce peuple. Il est trop lourd pour moi. Si c'est ainsi que tu me traites, fais-moi plutôt mourir, si du moins j'ai trouvé grâce à tes yeux. Que je n'ai plus à subir mon triste sort.
En empruntant une expression moderne, on pourrait presque dire que Moïse souffre d'un épuisement professionnel ou un burn-out. Sa tâche de mener le peuple à travers le désert semble laisser complètement épuisé. Il ne peut pas répondre à tous les besoins de ce grand nombre de personnes. Le peuple est fatigué de manger de la manne. Bon, peut-être qu'on peut prendre une petite parenthèse, voir c'est quoi ça la manne. Elle est décrite dans la Bible comme des petits grains blancs au goût de miel, apparaissant avec la rosée le matin. On dit qu'elle serait la sécrétion d'insectes se nourrissant d'arbustes du désert, comme le tamaris. Encore aujourd'hui, il y a des bédouins qui en mangent. Ils appellent cette sécrétion dure, en arabe, ils appellent ça man. M-A-N. Le sens du mot man vient d'une question posée par les Hébreux dans le livre de l'Exode lorsqu'ils la voient pour la première fois. Ils disent man où, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est. Alors donc, cette manne, le peuple est fatigué d'en manger, ils en ont tous les jours. Revenons à Moïse. Moïse, ben, il est épuisé parce qu'il entend cette souffrance du peuple et c'est lui qui a tout dans les bras. Sa tâche est grande et il ne sait plus quoi faire. Ben, sa réaction, il crie à son tour vers le Seigneur. Il lui dit qu'il ne peut plus porter seul tout ce peuple puis qu'il préfère même mourir plutôt que de continuer ainsi. Moïse n'en peut plus d'entendre l'attitude du peuple. Il n'en peut plus de la colère de Dieu et de sa propre situation. Il se demande même explicitement, il dit qu'il veut mourir. On pourrait dire qu'il nourrit des idées suicidaires. Il se sent abandonné de Dieu et il se révolte dans l'épreuve et dans la souffrance. En tout cas, on est loin de l'image traditionnelle de Moïse. Je ne sais pas si vous avez vu le classique du cinéma, Les 10 commandements, mais dans ce film-là, on voit Moïse qui est une espèce de chef courageux, imperturbable. Pourtant, dans le récit qu'on vient de lire du livre des Nombres, on voit plutôt sa vulnérabilité, un aspect qui le rend plus humain, plus proche de nous. On se rappelle que Dieu lui avait confié une mission, mais lorsqu'il l'a confiée, Moïse lui avait dit qu'il ne voulait pas de cette mission-là parce qu'il bégayait en parlant. Il trouvait ça difficile de parler devant le peuple. Alors, Moïse a des limites, comme nous. Il est humain. Alors, je vous propose d'écouter la suite pour voir la réponse de Dieu. Comment est-ce qu'il va aider Moïse là-dedans? Vous allez voir, Dieu a à la fois une réponse très intéressante, pédagogique, et aussi quelque chose d'un petit peu spécial, de l'humour noir. On écoute ça. Nombre, chapitre 11, et versets 16 à 20.
Le Seigneur dit à Moïse, « Rassemble-moi 70 des anciens d'Israël, des hommes dont tu sais qu'ils sont des anciens et des scribes du peuple. Tu les amèneras à la tente de la rencontre, ils s'y présenteront avec toi. J'y descendrai et je te parlerai. Je prélèverai un peu de l'esprit qui est en toi pour le mettre en eux. Ils porteront avec toi le fardeau du peuple et tu ne seras plus seul à le porter. Et au peuple tu diras, « Sanctifiez-vous pour demain et soyez en état de manger de la viande, car vous avez fait entendre cette plainte au Seigneur. Qui nous donnera de la viande à manger? Nous étions si bien en Égypte. Le Seigneur va donc vous donner de la viande, vous allez en manger. » Et vous n'en mangerez pas seulement un jour ou deux, ni même 5, 10 ou 20, mais tout un mois, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines, jusqu'à ce que vous en ayez la nausée. Tout cela parce que vous avez rejeté le Seigneur qui est au milieu de vous et parce que vous avez présenté cette plainte. Pourquoi donc sommes-nous sortis d'Égypte?
La solution de Dieu est très intéressante. Dans les récits insolites de la Bible, on voit pas toujours Dieu sous son meilleur jour. Souvent, on le voit qui est représenté, qui à la source de souffrance et tout ça, mais ici, c'est le contraire, il nous semble même raisonnable. Pour venir en aide à Moïse, qui se trouve tout seul et à bout de souffle, avec une tâche trop lourde, Dieu propose le partage de sa tâche. Moïse rassemble 70 personnes respectées du peuple qui partageront à la fois l'esprit qui habite Moïse et son fardeau. Ils vont se réunir dans la tente de la rencontre, le lieu où le Seigneur vient et le retrouver. La deuxième partie de la solution de Dieu nous semble quand même assez particulière. Elle fait preuve d'un humour assez noir en répondant à la plainte de son peuple, par de la viande, oui, mais par un tel excès de viande qui lui donnera l'envie de vomir par les narines. C'est quand même assez particulier. Pourquoi cette attitude du Seigneur? C'est peut-être pas tant la réclamation de la viande qui met en colère Dieu que l'évocation de la vie passée en Égypte. Alors que lui, Dieu, vient de les libérer de l'esclavage, le peuple dit qu'il préférerait retourner là-bas pour manger à sa faim. Après tout ce qu'il a fait pour lui, Dieu semble pas pouvoir supporter l'ingratitude du peuple. Imaginez, il leur a donné la liberté et eux veulent et rêvent, ils veulent retourner à l'esclavage. Comment relier tout ça à notre vie d'aujourd'hui? On vient à ça dans quelques instants. Thank you. Ici Sébastien Daune, vous êtes à l'écoute de Récits insolites de la Bible. Aujourd'hui, nous explorons un moment un peu plus sombre dans l'histoire de Moïse. Le peuple a faim, Moïse n'en peut plus, il demande à Dieu de pouvoir mourir. En réponse à ça, Dieu va partager les responsabilités de Moïse avec 70 anciens et il va donner de la viande au peuple, tellement que le peuple va en vomir. On va voir maintenant comment est-ce que ce texte peut nous interpeller aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut réfléchir à partir de ça. Bon, mais comme pour Moïse, dans notre société, la dépression, l'épuisement professionnel, le stress et même les idées suicidaires sont malheureusement bien présents. Moi, je pense que c'est attribuable à notre rythme de vie, entre autres, qui est si rapide, centré sur la performance, le travail, la consommation. Ça entraîne des maux très sérieux. Le récit qu'on vient de lire nous montre que même Moïse, un proche de Dieu, qui est le guide du peuple, mais lui aussi a vécu des moments de doute, de faiblesse, de difficulté. La vie, c'est ça. Ça apporte toujours son lot d'épreuves. Il va en avoir, c'est clair. Mais comment est-ce qu'on va faire pour gérer ces difficultés-là? La réponse est toujours complexe et dépend de chaque situation. Mais je pense qu'on peut tirer quelques leçons de ce récit qui nous offre des pistes de solutions, qui pourraient peut-être même s'appliquer à nos situations. D'abord, la première chose que Moïse a fait, c'était d'exprimer sa souffrance. Il est allé parler, ou plutôt même crier vers le Seigneur. Lorsqu'une épreuve se présente et que nous ne savons plus quoi faire, le mieux, c'est souvent de trouver une personne qui nous laissera exprimer cette souffrance plutôt que de la garder à l'intérieur. Cette autre personne pourrait même être Dieu, comme pour Moïse. Mais ça peut être aussi, plus simplement, un ami, quelqu'un qui est proche de nous, même un professionnel de la santé. Une fois exprimé, lorsqu'on place à l'extérieur de nous tous nos problèmes, bien, ils paraissent des fois moins pires et on peut trouver des solutions inattendues à ce qui semblait être insoluble. Après avoir écouté Moïse, Dieu réagit de deux façons. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va le mettre en relation avec d'autres et répartir sur plusieurs personnes une responsabilité qui était trop lourde. La sagesse de ce procédé-là peut nous inspirer aujourd'hui. Lorsqu'on souffre, c'est important de briser l'isolement en acceptant de s'ouvrir à d'autres. Puis, après cette intervention divine-là, ben Moïse va continuer sa mission. Petite parenthèse, parler de mon expérience personnelle. Dans la vie de tous les jours, moi, je travaille dans une école secondaire, le Collège Saint-Jean-Vianney. Et une partie de mon travail est d'offrir de la relation d'aide en écoutant les jeunes qui vivent des difficultés. Et souvent, lors d'une première rencontre, je sens que les élèves sont comme coincés dans un tourbillon et ils réussissent même pas à identifier correctement c'est quoi le problème en question. Puis, dans l'écoute, dans le dialogue, on parvient à démêler tout ça pour arriver à trouver des solutions. Lorsqu'on est collé à nos difficultés, bien, on manque de perspective, surtout quand on est jeune et adolescent. Alors, ils ont parfois même l'impression que leur vie est finie, qu'il n'y a plus rien à faire. Pourtant, ils ne le savent pas, mais ils ont un avenir riche qui les attend, s'ils parviennent à se relever et continuer le chemin. Ils ont besoin d'aide pour voir un petit peu plus loin et continuer à s'épanouir. Il y a beaucoup de personnes qu'on pense pour qui la pensée d'un suicide est présente dans leur vie. Les jeunes qui m'en parlent disent vouloir passer à l'acte pour faire cesser leur souffrance. C'est surtout là, hein? C'est pas qu'ils désirent mourir, mais plutôt qu'il faut arrêter cette souffrance-là. Ils ne trouvent pas de solution à leurs problèmes et cette situation sans issue, bien, le suicide apparaît comme une façon d'arrêter d'avoir mal. À ce moment-là, bien, mon rôle, moi, c'est de les orienter vers des professionnels de la santé capables de les aider. Mais puis ensemble, on tente de trouver des solutions et de redonner le goût de vivre. Puis depuis que je suis sensibilisé à cette souffrance-là, bien, j'hésite pas à aller vers ceux que je vois être tristes ou découragés, puis leur poser la question « Comment ça va? Est-ce que je peux t'aider? » Puis, bon, à quelque part, on est invité à jouer le rôle de Dieu dans ce récit-là et d'aider les personnes qui vivent un moment de difficulté. Question complètement différente. Le récit peut ouvrir la porte à une réflexion sur l'alimentation aussi. Aujourd'hui, avec les discours écologiques et tout ça, tous les spécialistes s'entendent pour dire que, bon, la planète peut encore fournir suffisamment de ressources pour nourrir toute la population actuelle à une condition, à celle de partager la richesse qu'on a de façon plus équitable. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup trop de personnes qui ont peine d'avoir de quoi survivre et il y a plusieurs personnes qui meurent, par manque d'eau ou manque de nourriture. Il y a 2 ans, encore un petit espace personnel, je suis allé au Pérou et j'ai passé quelques jours dans un organisme qui m'a beaucoup touché. Ça s'appelait Juan Pablo. Ils hébergent une 30aine d'enfants de la rue qui étaient abandonnés et ils vivent là ensemble. Puis je parlais avec les responsables du groupe et je leur ai demandé ben, d'où vient l'argent pour subventionner vos activités. Ils disent « Quel argent? On n'a pas d'argent. Ben, » Je lui dis ben, « Pour manger, vous devez bien avoir quelque chose. » Il dit ben, « Pour manger, ben, on envoie les enfants. On les envoie dans le marché local. Puis bon, ils quêtent pour avoir des restants. » Et ils rapportent ce qu'ils peuvent trouver. À la maison, ben, s'ils ont des os de poulet, on fait un bouillon de poulet avec ça. Puis ils me disaient que malgré leur peu de ressources, mais tous les jours, Dieu leur donne de quoi manger. Il leur donne ce qu'ils ont besoin pour continuer. Et à quelque part, moi, je pense que c'est très proche de l'expérience des Hébreux au désert, qui recevaient de Dieu la nourriture nécessaire pour la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à tout ça? On est loin de cet organisme au Pérou. Mais vous savez, même si vous croyez plus ou moins à ça, notre façon de consommer a un impact réel sur le sort des autres. Limiter, par exemple, notre consommation de viande peut avoir un impact très important. On s'aperçoit aujourd'hui que la surface de sol nécessaire pour produire 1 kilo de viande est beaucoup plus grande que celle nécessaire à la production 1 kilo d'autres aliments, de céréales et autres. On dit qu'un kilo de viande exige la même surface de sol que 200 kilos de tomates ou 100 kilos de pommes de terre. Il y a aussi la question de l'utilisation des céréales pour l'élevage des animaux. Aux États-Unis, presque 80 % des céréales sont produites pour nourrir le bétail. Alors, de 7 à 16 kilos de graines de soya sont nécessaires pour produire 1 kilo de viande. Ça, c'est quelques statistiques qui nous donnent des raisons écologiques pour limiter notre consommation de viande. Si tout le monde se mettait à manger la viande tout le temps, il n'y aurait pas assez de ressources sur la terre pour tout le monde. Alors, notre façon de consommer aujourd'hui, ici au Québec, peut avoir des répercussions ailleurs. Dans le récit qu'on vient de lire, Dieu donne de la viande. Il en donne, mais il va en donner jusqu'à temps que le peuple en vomisse. Bon, ça nous dit que la modération a meilleur goût et écologiquement, on voit que c'est plus responsable d'y aller avec modération. C'est déjà le moment de se dire à la prochaine. J'espère que le récit des idées suicidaires de Moïse vous a donné quelques idées pour sortir de vos moments difficiles de la vie. Vous pouvez lire les récits et les réflexions abordées dans notre émission dans un livre qui est intitulé « Mais d'où vient la femme de Caïn? Les récits insolites de la Bible ». Alors, c'est moi qui l'ai écrit, c'est aux éditions Novalis et Médiapol. Si vous avez des réactions, des commentaires, des questions suite à notre émission, gênez-vous pas pour nous écrire. En fait, écrivez-nous. Nous, on va prendre un temps au début de chaque émission pour lire et réagir à ce que vous allez nous écrire. Pour nous rejoindre, le plus facile, c'est le courriel auditoire@radiovm.com, auditoire@radiovm.com, mais vous pouvez nous rejoindre aussi par le courrier régulier ou par le téléphone de la station. La prochaine émission, nous allons commencer à parler de David, un personnage fort important autour duquel on retrouve plusieurs récits insolites. On va voir ça bientôt. En terminant, merci à Alain Primo qui a fait la lecture aujourd'hui et qui est, comme toujours, à la technique. C'était Sébastien Daune, bibliste. À bientôt.